Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes le club radio de l'ARACOM.
Pour cette première émission, nous vous présentons une émission consacrée au Japon.
Au sommaire, une chronique de Walter sur les vocaloïdes.
Une interview avec Taro Ochiai, un japonais habitant Osh.
Une chronique de Steffi sur un groupe de rock japonais One Ok Rock.
Puis une rubrique manga avec une chronique de Livia.
Et une interview avec Seb, le libraire du Migo.
Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Les vocaloïdes sont un type de musique très populaire au Japon. Contrairement aux autres musiques, les vocaloïdes sont des intelligences artificielles. Il y en a plusieurs et chacun a sa popularité, comme Hatsune Miku, Len, Rin et beaucoup d'autres. Ils sont tellement populaires qu'il y en a des concerts où leurs idoles, les vocaloïdes, sont projetés en tant qu'hologrammes en train de chanter, danser, voire parfois discuter avec le public qui se rue sur les tickets d'entrée. J'ai choisi cette chanson car c'est une de mes vocaloïdes préférées du nom de Hatsune Miku. J'aime aussi le rythme, la voix et les paroles.
レンジの片隅。
Bonjour, nous sommes des élèves du lycée agricole de Lavacan à Pavie. Nous venons de monter un atelier radio. Nous faisons avec toi notre première émission de radio. Comme le Japon nous fascine, nous avons décidé de consacrer cette première au Japon. Nous espérons faire découvrir ce pays et sa culture à nos camarades. Anata wa anata o yobido shimasu ka?
Donc là, pour le coup, ça ne veut rien dire du tout. Oui. Mais donc, j'ai bien compris le sens de la question. Et donc, watashi no namae wa Ochiai Taro desu. Je m'appelle Taro Ochiai.
D'où viens-tu au Japon?
Eh bien, je viens de Tokyo, la capitale.
Est-ce que le Japon est un pays moderne ou un pays traditionnel?
Fondamentalement, le Japon est un pays occidental, en fait. Il n'y a pas, fondamentalement, pas vraiment de différence entre... Alors là, évidemment, je parle pour des grandes villes comme Tokyo. Il n'y a pas de grande différence fondamentale entre une ville comme New York, Paris, Londres, Tokyo. C'est vraiment des mégalopoles occidentales. En France, notamment, on donne toujours le Japon qui arrive à marier la tradition et la modernité, les nouvelles technologies avec les traditions, etc. Mais en fait, tout ça, c'est une espèce d'image d'épinal qui ne correspond pas vraiment à la réalité.
Ta famille est plutôt moderne ou traditionnelle ?
Alors, ma famille, elle est plutôt c'est entre les deux. C'est alors les de nos jours, plus personne ne s'habille en kimono, tout ça. Alors c'est vrai que mes grands-parents continuaient de s'habiller en kimono traditionnel, mais il n'y a pas ce côté justement traditionnel. Il y a toujours dans les appartements ou les maisons toujours une pièce japonaise, mais la plupart des maisons c'est table, chaise, voilà, c'est exactement comme ici.
Quelles sont les fêtes traditionnelles au Japon?
Alors les fêtes traditionnelles, il y en a des milliers et des milliers. Et je ne saurais en faire l'inventaire.
Quelle est ta préférée?
C'est vrai. Le moment que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, c'était le Nouvel An. Et donc au Japon, le Nouvel An dure 3 jours. Et ce sont 3 jours où, pendant lesquels on se réunit en famille et voilà, on mange, on va faire la visite du voisinage et tout ça, on va visiter le temple et tout ça. Donc ça c'est l'hiver japonais est en tout cas je parle pour ce que je connais autour de Tokyo, l'hiver japonais est un froid sec, donc on sent pas vraiment le froid et puis il fait toujours beau, donc c'est toujours un hiver agréable au Japon.
Est-ce que tu peux nous parler du White Day, la Saint-Valentin japonaise?
Alors, la Saint-Valentin au Japon, c'est... Alors, en France, la Saint-Valentin, c'est une affaire relativement récente, on va dire commercialement parlant. Ouais. Tandis qu'au Japon, c'est une fête commerciale importante où les filles achètent du chocolat pour l'offrir aux garçons qui ont leurs préférences. Et donc l'inverse n'a pas lieu ce jour-là, mais une semaine ou 2 semaines après, je ne me souviens plus, où justement le garçon doit rendre, puisqu'on est toujours dans un système d'échange, hein, et donc le garçon doit rendre ce qu'il a reçu.
Il est obligé de lui rendre ?
Et donc voilà, ça fait partie du protocole. Alors que ça ne concerne pas que le chocolat, hein. C'est au Japon, quand on reçoit quelque chose, il faut le rendre. Ça, ça fait partie du protocole, c'est comme ça.
Quel est ton plat préféré?
Alors, j'en ai plusieurs, mais là récemment, j'ai vraiment eu très envie de manger du ramen. Donc les nouilles chinoises japonisées.
Pour toi, quel est le plat le plus prestigieux au Japon?
Une chose qui est prisée, c'est le fugu. C'est le poisson que seuls certains professionnels peuvent cuisiner, puisque, enfin, en tout cas préparer, puisque c'est un poisson qui dispose d'une poche dans laquelle il y a un poison. Et donc, quand le cuisinier ne sait pas préparer le poisson correctement, la poche crève et donc, en fait, la personne qui mange le fugu, bah, il meurt, quoi. C'est... Donc, voilà, il faut avoir 10 ans d'expérience dans la préparation du fugu pour pouvoir préparer le fugu. C'est rare et c'est cher. Et voilà.
Tu peux nous parler du bento qui est utilisé par les écoliers au Japon ?
Le bento, bah, c'est le repas de midi... dans des petites boîtes là, avec chaque petit plat préparé dans des compartiments et tout ça par papa ou maman. Maintenant, il y a plein d'endroits où il y a des cantines traditionnellement, entre guillemets. C'est voilà, papa, maman, ou plutôt la maman pour le coup, qui le matin se lève et commence à cuisiner pour préparer le bento. Alors après, c'est sûr que le bento à l'origine, alors, j'ai pas fait de recherche historique à ce niveau-là, mais ce que j'en comprends en tout cas, c'est que ça vient du fait que au XVIIe, XVIIIe siècle, les samouraïs étaient tenus de voyager, de venir habiter à Edo, donc Tokyo, pendant 2 ans, et donc constamment les seigneurs des différentes provinces du Japon étaient tout le temps en train de voyager. Avec toute une suite, etc. Et donc, forcément, ils étaient amenés à manger et donc à transporter la nourriture. Et donc, pour le coup, ils avaient une nourriture raffinée qui les accompagnait, qui était donc apprêtée pour que ça puisse être transporté, tout ça. Donc, je pense que c'est une tradition qui vient de ce genre de choses.
Puisque l'on parle du lycée, est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences qu'il y a entre le lycée en France et le lycée au Japon ?
Alors, je n'ai pas connu le lycée japonais, puisque quand j'étais au Japon, j'étais au lycée français de Tokyo. Donc, je peux vous parler du lycée français de Tokyo. Et en fait, le lycée français de Tokyo n'a strictement aucune différence entre un lycée européen. Dès qu'on rentre, on est à Tokyo, et puis dès qu'on rentre dans l'enceinte du lycée, bah, on est en France. Il n'y a vraiment aucune différence. Et par contre, après, au niveau de ce que je sais de l'éducation au Japon, effectivement, c'est très, 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 très différent. D'un point de vue formel extérieur, il y a le port de l'uniforme qui est obligatoire. Donc, chaque établissement a son style d'uniforme. Et après, d'un point de vue éducation, c'est vrai que, à la différence de la France, alors la France, c'est plutôt, on va dire, c'est le devoir sur table, on est dans l'écrit, tandis qu'au Japon, on est plutôt dans le QCM. Et on est beaucoup dans le par cœur. Ça vient aussi du fait que, voilà, il y a des milliers de kanji à connaître, et donc, en fait, pendant toute sa scolarité, l'enfant et l'adolescent, ben, en fait, il va apprendre des nouveaux kanji.
On dit qu'au Japon, il y a beaucoup de brimades. Est-ce que les conditions d'apprentissage sont si difficiles qu'on le dit ?
Alors, c'est pas les conditions d'apprentissage qui provoquent cette situation, enfin, à mon avis. Le côté brimade vient sans doute plus du fait que il y a une telle pression qu'en fait, dès qu'il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu différent, un petit peu qui fasse un petit peu brebis galeuse, pour que voilà, tout le monde se mette à le brimer. Alors c'est une affaire qui dure depuis bien longtemps au Japon. Le problème est que faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse.
Est-ce que c'est vrai que tous les lycéens doivent maîtriser un art martial ?
Non, pas du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, le Japon est un pays occidental. Et donc, quand vous dites que vous faites un art martial, bah, le japonais moyen, entre guillemets, bah, il est stupéfait. Il dit « Ah, c'est super, c'est formidable, c'est incroyable. » Voilà. C'est quelque chose qui est sorti de la culture du japonais moyen. Historiquement, donc, il y a eu toute la période où le Japon était fermé, donc 17e, 18e, fin 19e, jusqu'à fin 19e, il y a 2 siècles et demi de fermeture, c'est une espèce de dictature, c'est une paix dictatoriale, voilà, qui est une paix qui était imposée à tous les... à toute la population. Et après, il y a eu donc l'ouverture forcée du Japon au monde. C'était, ça, c'est fin 19e, ça, c'est l'ère Meiji. Et en gros, le Japon s'est ouvert au monde pour ne pas se faire coloniser. Et donc, à partir de là, il y a plein de choses qui ont disparu du Japon. C'est vraiment une course à l'occidentalisation. Donc, les Japonais, il y a eu des délégations, etc. Ils sont partis faire le tour du monde pour aller... prendre le meilleur de ce qui se faisait dans le monde, en fait, dans le monde occidental. Et donc, pareil, les arts martiaux ont subi le même processus de normalisation. Donc, tout ce qui est en do, judo, karaté-do, kendo, aikido, tout ça, ce sont des arts occidentaux.
Une langue très différente du français. Tu peux nous expliquer comment elle est structurée?
Donc il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de... donc la langue japonaise, c'est une langue vraiment contextuelle. Et donc c'est une langue où on n'a pas besoin de préciser le sujet, par exemple, pour comprendre que c'est moi qui parle de moi ou voilà. Par exemple, je vais juste dire le mot manger, par exemple, et le contexte fera que je suis en train de parler de moi qui veut manger, par exemple, ou est-ce qu'on parle de, je parle de tout le monde, ou est-ce que je parle de toi, ou tu vois, c'est le contexte qui est donné. Après, il y a une façon de formuler les choses qui fait que je connais pas les termes grammaticaux par rapport à tout ça, mais il y a toujours une histoire de hiérarchisation entre une personne qui est plus âgée, plus jeune, qui est d'un rang plus élevé ou pas, ou alors quand on est au même niveau, et donc la formulation va changer, et même l'emploi de certains mots va changer, parce que toujours pour des histoires de respect.
Tu peux nous dire aussi à quoi servent les symboles?
Les hiragana et les katakana.
D'accord. Alors historiquement, donc il y a eu la période, je vous ai parlé de la période fin 19e, hein, l'ouverture du Japon, etc., où les Japonais donc sont allés chercher le meilleur du monde occidental. Et avant ça, vers 7e, 8e, 9e siècle, ils ont eu la même démarche, mais par rapport à la civilisation dominante de l'époque, c'était la Chine. Et donc, les Japonais sont allés chercher la philosophie chinoise, ils ont pris la philosophie chinoise, vraiment toute la pensée chinoise, et ils ont aussi pris la langue, donc les kanji. Après, ils l'ont adapté à leur propre sauce, hein. Mais donc ça vient vraiment de les kanji, les milliers de kanji utilisés par les Japonais viennent directement de la langue chinoise. Après, donc c'était 7, 8, 9e siècle, donc les kanji ont évolué de manière différente. Ce qui fait qu'il y a un même kanji, il y a deux kanji qui sont équivalents en Chine et au Japon, qui ne vont pas forcément s'écrire de la même façon, parce qu'ils ont un développement différent historiquement parlant, mais ce sont les mêmes kanji. Après, en japonais, effectivement, il y a les hiragana et les katakana, et donc les kana, ce sont des déclinaisons des kanji, et en fait le kanji peut s'écrire vraiment de manière très très différente. Regardez, alors c'est à la radio, c'est super visuel, hein, mais donc ça, c'est mon arrière-grand-père qui était calligraphe, il a fait cette calligraphie. Il a écrit de 78 manières différentes le kanji Kotobuki.
Bon, merci beaucoup.
そうですね。何よりかな。とても楽しかったです。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
Selon moi, cette chanson représente le Japon. J'ai choisi le groupe One Ok Rock et plus particulièrement la chanson Answer Is Near. Ce groupe est le premier que j'ai découvert, que j'écoute très souvent. C'est un groupe qui s'amuse, ça se voit, ça me donne envie de me retrouver avec mes amis pour faire de même. Answer Is Near provoque chez moi une certaine excitation. Basse, guitare, batterie, avec les paroles, donnent une réelle harmonie. Le refrain est énergique, il fait résonance. Elle exprime le bonheur et on veut la réécouter. En conclusion, je l'apprécie beaucoup pour son peps et sa joie de vivre. Et c'est avec cette vision que j'ai envie de vous la faire partager aujourd'hui.
Les mangas sont nés au Japon. Certains pays commencent eux aussi à en créer, tels que la France et la Chine. Les styles de mangas les plus connus. Les shoujo qui sont principalement faits pour les jeunes filles, dû au fait que le scénario tourne autour d'une histoire d'amour. Exemple, Crimson Prince, qui est une version de Roméo et Juliette, version japonaise. Les shonen, eux, sont principalement pour les jeunes garçons, dû aux scènes d'action souvent présentes. Exemple, Degreman, qui parle d'une lutte entre le bien et le mal. Et enfin, les seinen sont par contre des mangas pour des personnes un peu plus âgées, dû au fait que les sujets abordés font partie de la vraie vie, avec beaucoup plus de violence, comme les guerres ou la psychologie. Exemple, Young Black Jack, qui va parler de la médecine au Japon lors de la Seconde Guerre mondiale.
Alors moi je m'appelle Sébastien, je suis le fondateur du Migou avec Fredo qui n'est pas là aujourd'hui. J'ai 40 ans maintenant, j'avais un peu moins de 30 ans quand j'ai fondé le Migou. Et je suis un Gersois de naissance qui est parti après ses études et puis qui est revenu parce qu'il s'est aperçu que vivre de Gers c'était plutôt sympa. Et voilà, je mesure 1m78, 3 kilos et je suis chauve.
Comment as-tu créé le Migou ? Pourquoi ?
J'ai créé le Migou il y a 11 ans, en 2005, et c'était parce que j'étais en période de chômage, et que donc je voulais créer mon emploi et être indépendant. Et comme j'aime bien travailler dans ce que j'aime dans la vie, ben, la bande dessinée, ça m'est apparu tout à fait naturel, parce que c'est mon autre passion, avec le cinéma.
Est-ce que tu vends des mangas depuis le début ?
Ouais. Depuis le début, on a décidé de vendre de tout, de la BD, des comics et du manga, d'autant plus que quand on a débuté la librairie, le manga commençait déjà à avoir le vent en poupe. Hein. Et donc c'est obligatoire, quoi. Surtout que Hoche, c'est une petite ville. Hein. Si on veut réussir à survivre, hein, on ne peut pas se priver du manga.
Quel est le style de manga que tu préfères ?
Alors moi, le manga, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, j'ai envie de dire que celui que je préfère, c'est celui qui correspond à ma tranche d'âge hein, et à ce que je suis, c'est-à-dire un homme de plus de 30 ans, enfin un homme adulte. Hein, et là, le manga, c'est très compartimenté, comme vous le savez peut-être. Hein, et le manga adulte, ça s'appelle le seinen. Voilà, c'est ce que j'aime, quoi. Manga plutôt du thriller, pourquoi pas de science-fiction, quoi.
Quel manga vends-tu le plus ?
C'est One Piece, sans hésiter. Et là, depuis peu, il y a un manga qui s'appelle One Punch Man, qui est donc un shonen qui commence à... Enfin, qui a tapé très fort d'entrée et qui passe en seconde position.
Quelle est l'histoire de ce bâtiment enfin de...
Alors, l'histoire du bâtiment, elle est... séculaire, c'est comme ça qu'on dit. elle a plusieurs centaines d'années parce que c'est on est dans la vieille ville, dans le vieux Hoche, c'est un bâtiment médiéval. Donc avant le Migou, juste avant, c'était un autre magasin, c'était une épicerie. Voilà, donc le monsieur a fermé, le local était vide et moi je l'ai pris. Donc l'histoire du magasin, c'est ça et c'est moi qui ai créer la librairie, donc tu vois, j'ai pas repris une librairie qui existait déjà.
C'était Jennifer,
Vivian,
Stéphie,
Walter.
On se retrouve bientôt
pour une nouvelle émission.